Alors, ce matin, donc, nous allons écouter la parole de Dieu. D'abord, nous allons la lire et puis écouter ce que le Seigneur a à nous dire de façon plus précise aujourd'hui. Parce que vous savez que la Bible, c'est plus qu'un livre. Hein. On dit la parole de Dieu, hein, mais parfois, c'est des expressions dont on ne mesure pas vraiment la portée. C'est la parole de Dieu, c'est-à-dire que c'est Dieu qui nous parle. Ça, c'est quand même important de le préciser. Ça semble évident, mais c'est pas dit que dans notre esprit, quand nous ouvrons ce livre, nous pensions automatiquement, Dieu, il est là, il est en train de me parler directement, quoi. Hein, parce que c'est une parole quand même qui est inspirée. C'est-à-dire, c'est pas simplement, quand je parle d'inspiration comme un artiste. Il est inspiré, ou un musicien, ou il est vraiment inspiré dans son interprétation. Ça crée quelque chose, c'est un peu flou comme expression. Mais là, on parle d'une inspiration vraiment parfaite, totale. Les techniciens disent verbale, les théologiens, c'est-à-dire que les mots même qui sont employés par les auteurs bibliques sont inspirés du Seigneur. Alors, bien sûr, ce sont des traductions qu'on a, mais il n'empêche qu'à la base, ceux qui ont écrit ont reçu une inspiration directe. C'est ce qui nous différencie d'aujourd'hui. Quand quelqu'un peut parler de la part de Dieu, il peut être inspiré effectivement, mais pas avec le même degré d'autorité que les auteurs bibliques. Ce qui fait que quand vous ouvrez la Bible, frères et sœurs, eh bien vous avez réellement une parole de Dieu. Et ça change tout, hein, quand on est dans cette logique-là. Et du coup, on se dit... Ah ouais, ça vaut le coup quand même de la lire, ça vaut le coup de l'étudier, ça vaut le coup d'écouter aussi un message inspiré d'une inspiration plénière, totale, verbale, qui a autorité. Cette parole a autorité, frères et sœurs. Elle a autorité. Et donc nous allons lire ensemble un passage qui se trouve dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 63. À partir du verset 15, et puis on continuera la lecture jusqu'à la fin, à la fin du chapitre 64. Et donc, merci. Avec pour titre le modèle d'une prière pour un peuple repentant. Alors nous lisons à partir donc du verset 15, 63. J'ai mis verset, attendez, je regarde bien parce que je ne me trompe pas. Parce que des fois. 63, oui, verset 15. Regarde du ciel et vois de ta demeure sainte et glorieuse. Où sont ton zèle et ta puissance? Le frémissement de tes entrailles et tes compassions ne se font plus sentir avec moi. Tu es cependant notre Père. Car Abraham ne nous connaît pas et Israël ignore qui nous sommes. C'est toi, Éternel, qui es notre Père, qui dès l'éternité t'appelle notre Sauveur. Pourquoi, ô Éternel, nous fais-tu errer loin de tes voies et endurcis-tu notre cœur contre ta crainte? Reviens, pour l'amour de tes serviteurs, des tribus de ton héritage. Ton peuple saint n'a possédé le pays que peu de temps. Nos ennemis ont foulé ton sanctuaire. Nous sommes depuis longtemps comme un peuple que tu ne gouvernes pas et qui n'est pas appelé de ton nom. Oh, si tu déchirais les cieux, si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient devant toi. Et comme s'allume un feu de bois sec, comme s'évapore l'eau qui bouillonne, tes ennemis connaîtraient ton nom. Et les nations trembleraient devant toi. Lorsque tu fis des prodiges que nous n'attendions pas, tu descendis et les montagnes s'ébranlèrent devant toi. Jamais on n'a appris ni entendu dire, et jamais l'œil n'a vu qu'un autre Dieu que toi fit de telles choses pour ceux qui se confient en lui. Tu vas au-devant de celui qui pratique avec joie la justice, de ceux qui marchent dans tes voies et se souviennent de toi. Mais tu as été irrité parce que nous avons péché, et nous en souffrons longtemps jusqu'à ce que nous soyons sauvés. Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. Il n'y a personne qui invoque ton nom, qui se réveille pour s'attacher à toi. Aussi, nous as-tu caché ta face, et nous laisses-tu périr par l'effet de nos crimes. Cependant, ô Éternel, tu es notre Père. Nous sommes l'argile, et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Ne t'irrite pas à l'extrême, ô Éternel, et ne te souviens pas à toujours du crime. Regarde donc, nous sommes tous ton peuple. Tes villes saintes sont un désert. Sion est un désert. Jérusalem, une solitude. Notre maison sainte et glorieuse, où nos pères célébraient tes louanges, est devenue la proie des flammes. Tout ce que nous avions de précieux a été dévasté. Après cela, ô Éternel, te contiendras-tu ? Est-ce que tu te tairas et nous affligeras à l'excès ? C'est une prière, une complainte vraiment touchante, je trouve, du prophète Ésaïe. C'est comme si dans cette prière, on l'entendait, c'est comme s'il était là. On est ému même de voir la souffrance du prophète devant l'état spirituel du peuple d'Israël. Alors, je vois dans ce texte trois parties. La première partie, c'est Ésaïe 63, 15, le début donc, de notre texte, jusqu'à la fin du chapitre, donc au verset 19, mais la moitié du verset 19 en réalité. Et j'intitule donc ce passage-là « La complainte du prophète sur l'état d'Israël, du peuple d'Israël ». Au verset 15, le prophète dit « Où sont ton zèle et ta puissance ? Tes compassions ne se font plus sentir. » Et donc, on voit bien que pour le prophète, il y a un décalage entre la compréhension qu'il a de Dieu, sa puissance, le zèle que Dieu a déployé pour délivrer son peuple dans le passé, ses compassions qui ne se font plus sentir, et l'état du peuple d'Israël qui a l'air d'être vraiment dans un état moribond, si j'ose dire, qui est perdu. Il est donc touché, le prophète, par ce décalage entre ce qu'il voit dans son désespoir et ce que Dieu a fait dans le passé. La différence entre les compassions de Dieu et la réalité spirituelle dans laquelle est plongé le peuple d'Israël. Et le prophète s'exclame au verset 16, il s'écrit « Tu es cependant notre Père ». Tu es cependant notre Père. Notre Père, c'est-à-dire que, comme Jésus l'a enseigné d'ailleurs à ses apôtres, hein, notre Père qui est aux cieux. Notre Père, c'est-à-dire le Père de tout un peuple, pas simplement de quelques héros, de quelques prophètes. Et un Père est censé prendre soin de son peuple. Hier, nous étions invités à un anniversaire, et on a remis un cadeau à Danielo, qui va être père bientôt, avec un livre, bon, c'est un livre original, « Comment être un mauvais père ». C'était en fait une BD. Un père est censé prendre soin de ses enfants, de son peuple. Un père aime ses enfants, et c'est ce que Dieu fait pour le peuple d'Israël, c'est ce qu'il a toujours fait. Il aime celui qu'il a choisi. On peut même dire qu'en tant que Père miséricordieux, compatissant, c'est lui qui a enfanté Israël. Vous savez que dans la Bible, d'ailleurs, il y a tout un débat parmi certains théologiens qui critiquent les Écritures, et notamment la théologie patriarcale de l'Ancien Testament, selon eux. Et donc, ils veulent plutôt dire Dieu Père, Dieu Mère. Voilà, il faudrait plutôt mettre mère. Voilà. Et Dieu est un père, il enfante, il montre à la fois, il y a beaucoup de textes, et quand il dit qu'il est comme une poule qui rassemble ses poussins, donc il y a l'image maternante aussi dans les Écritures, celui qui exerce sa miséricorde, et d'ailleurs le terme hébreu parle des entrailles de miséricorde, c'est carrément, ça correspond en fait à ce qui permet à une femme d'enfanter, c'est l'utérus en réalité. Seulement, bon, la Bible emploie des euphémismes pour exprimer ces choses-là. Mais donc Dieu a réellement une nature qui représente à la fois ce qu'on peut, dans nos imaginations, penser être un père ou une mère. Donc il a des compassions. Et le prophète dit « Abraham ne nous connaît pas et Israël, c'est-à-dire Jacob, en fait, ignore qui nous sommes. » Autrement dit, ce que veut dire le prophète là, c'est « Nous avons effectivement des ancêtres glorieux, Abraham, Jacob, Isaac, Jacob, mais eux, ils sont morts, ils ne nous connaissent pas. Mais toi, tu es un père. » Vous savez que dans l'Ancien Testament, souvent les héros, les prophètes, les grandes figures de l'Ancien Testament sont appelés parfois des pères, comme Élie par exemple. Eux sont morts, ils sont morts, Abraham, Isaac, Jacob sont morts. Mais toi tu demeures, tu es un père différent. Abraham ou Jacob, ben, sont décédés depuis bien longtemps, mais toi tu es le père des cieux et de la terre, et ce père-là est toujours fidèle et miséricordieux. Au verset 16, donc, ce Père est nommé Père éternel et Sauveur. C'est toi, éternel, qui es notre Père, qui dès l'éternité t'appelle notre Sauveur. Pour le prophète, ça semble ahurissant de savoir que ce Père qui a sauvé Israël de l'esclavage d'Égypte, qui l'a fait passer au travers de la mer Rouge, qui l'a délivré, qui a manifesté tout au long du désert pour le peuple d'Israël, en faisant pleuvoir des cailles, en ouvrant le rocher pour faire couler de l'eau pour l'abreuver, la manne aussi, qui est ce père vraiment qui a pris soin de son peuple. Comment se fait-il qu'aujourd'hui le peuple d'Israël soit à ce point esselé, pauvre, abandonné? Et au verset 18 et 19, on voit vraiment la description des pertes spirituelles du peuple, des possessions du territoire. Le sanctuaire même a été souillé. On ne sait pas trop comment, mais ça le laisse entendre, souillé par la présence apparemment de païens, certainement, qui l'ont rendu impur. Plus d'autorité, de direction divine. Le nom de Dieu n'est plus attaché au peuple. Donc perte de l'identité spirituelle, parce que pour Israël, la question du nom, quand on parle du nom de Dieu, ça représente réellement la personne même de Dieu, quand on parle du nom de Dieu. Donc perte de l'identité spirituelle qui marquait la différence avec les peuples idolâtres voisins. Le prophète donc est vraiment, mais vraiment dans un état de tristesse, et il brosse un tableau dramatique. Il est vrai que c'est un drame qui se joue à ce moment-là. Dans la deuxième partie, fin du chapitre 63 jusqu'au verset 6 du chapitre 64, j'intitule ce passage « La prière du prophète ». Mais une prière sous la forme d'une pétition. C'est un peu comme si vraiment, quand on va trouver une autorité avec une pétition, on va vraiment réclamer, prier pour le prophète, en tout cas, une action, parce qu'il y a urgence à agir. Jusqu'au verset 3, on voit que dans sa supplication pour le peuple, le prophète commence par sanctifier le nom de Dieu. Je vais expliquer ce que veut dire sanctifier le nom de Dieu. Il dit « Oh, si tu déchirais les cieux », fin du chapitre 63, « et si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient devant toi. » Et puis un peu plus loin, « tes ennemis connaîtraient ton nom. » Vous voyez l'importance du nom, parce qu'il est attaché à ce nom, l'identité même de ce qui fait la nature du Dieu d'Israël, ce Dieu juste et saint, et les nations tremblerait devant toi. Sanctifier le nom de Dieu, c'est quoi? Ben, c'est lui rendre la gloire. Rendre la gloire à Dieu. Sanctifier le nom de Dieu, c'est décrire sa puissance, sa souveraineté sur tous les éléments de la création. Les montagnes s'ébranleraient. Deux fois cette image-là. Ésaïe rappelle aussi les actes miraculeux, glorieux que Dieu a fait pour sauver et délivrer le peuple tout au long de sa marche dans le désert, pour se rendre vers la terre promise. Donc sa prière n'est pas le fruit de son imagination ou d'un coup de cœur à un moment donné. elle est fondée, la prière, la pétition, hein, c'est une vraie pétition d'Ésaïe, elle est fondée vraiment sur ce qu'est Dieu, sur ce qu'il a fait. Il a séparé les eaux de la mer Rouge, il a délivré le peuple d'Israël de la main des Égyptiens, il a fait pleuvoir la manne, l'écaille, l'eau du rocher. Autrement dit, si Dieu agit de cette façon, il n'y a pas de raison qu'il ne puisse le faire de nouveau aujourd'hui pour son peuple. Malheureusement, il y a un problème. Versets 4 et 6, la main de Dieu est retenue car le peuple n'a pas respecté les clauses de l'alliance avec son Dieu. Il a depuis longtemps lâché la main de son Dieu. Et la requête du prophète ne fait pas l'impasse sur une réalité incontournable, à savoir la justice et la sainteté de Dieu. Toute prière, toute requête à Dieu demande d'abord de prendre en considération sa justice et sa sainteté. On ne peut pas demander n'importe quoi à Dieu et on ne peut pas le faire sous n'importe quelle condition et avec n'importe quel comportement. On vient à Dieu d'abord en s'humiliant devant lui, en reconnaissant ce qu'il est et donc ce que nous sommes. Or, le peuple de Dieu a désobéi à un tel point que Dieu l'a lâché, l'a livré au pillage et au jugement des nations. Verset 5, deux images pour décrire l'état spirituel du peuple de Dieu. Le vêtement souillé, votre propre justice est comme un vêtement souillé et une feuille flétrie et emportée par le vent. Alors, voilà la raison même de ce petit objet. Une feuille flétrie, j'ai trouvé ça dans notre raie de jardin. Je me disais, vais-je trouver encore quelques feuilles flétries ? Eh bien, j'en ai trouvé. Hop, vous voyez, c'est terrible, hein, c'est emporté par le vent. Vous avez vu, c'est vraiment... ça casse et puis... Oh là, emporté par le vent. Et là, ce n'est pas un vent violent, hein, ce n'est que mon souffle. C'est terrible de voir. Et puis alors surtout, on ne peut pas dire que c'est très esthétique. Ça représenterait plutôt, moi je ne suis pas un artiste peintre, mais plutôt le désœuvrement, la mort même, hein, la couleur. Vous voyez, c'est pas terrible, quoi. Un vêtement souillé, c'est l'image bien du pur et de l'impur. Vous savez, dans l'Ancien Testament, c'est très important de considérer ce que Dieu considère comme pur ou comme impur. Alors, c'est très compliqué. D'ailleurs, on se demande même comment le peuple d'Israël, si même le peuple d'Israël a pu suivre toutes ces prescriptions, quand vous lisez le Lévitique, c'est chaud, ouais, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Heureusement que Jésus a payé pour nous, pour nous purifier, parce que s'il fallait suivre ces 613 commandements, il paraît, c'est compliqué à vivre. Hein. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que vraiment j'ai fait un chemin de sabbat? Est-ce que j'ai pas fait un mètre de plus? Est-ce que tel nœud, je peux le dénouer ou pas, parce que c'est le sabbat? Est-ce que j'ai bien purifié ça? Est-ce qu'il y a vraiment plus de levain le jour de Pâques dans la maison? Alors il faut fouiller partout, il faut vraiment... Vous imaginez pas combien au niveau scrupule, ça peut psychologiquement... ça doit être compliqué tout ça. Mais ça dit quoi? Ça dit que pour Dieu, bien, il y a bien une différence entre ce qui est pur et ce qui ne l'est pas, entre ce qui est pur et ce qui est souillé. Votre propre justice est comme un vêtement souillé. Tu ne peux pas venir avec Dieu tel que tu es, si ce n'est purifié par le sang de Jésus, c'est-à-dire en mettant ta foi dans le sacrifice du Christ qui a payé pour toi, qui est mort pour toi, qui t'a racheté. Ceci dit, on ne vient pas comme ça, ça veut dire qu'on se croit déjà, sans le sacrifice du Christ, impur. Ça veut dire qu'on vient dans une attitude d'humilité, lavée par le sang de Jésus, et en invoquant le nom de Jésus. À mon nom, souvent dans le Nouveau Testament on voit ça, à mon nom, tout ce que vous demanderez à mon nom, je vous l'accorderai. À mon nom, on passe par Jésus-Christ qui est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Il s'est donné lui-même en rançon pour tous. Première épître à Timothée, chapitre 2, versets 5 et 6. Un seul Dieu et un seul médiateur. C'est quoi un médiateur pour vous ? Hein ? Il nous conduit au Père, il nous purifie, il nous sanctifie. Et inversement, il plaide notre cause aussi auprès du Père. Il plaide notre cause. Alléluia. Il est notre intercesseur et notre médiateur. Alors, le peuple de Dieu, donc le prophète souligne la nature du péché. Celui-ci est avant tout, la nature du péché du peuple d'Israël, est avant tout le refus de s'aligner sur la sainteté de Dieu et ce qu'il est et ce qu'il veut faire pour lui. Le peuple de Dieu n'a pas respecté les clauses de l'Alliance. Il ne se souvient pas de son Dieu. Le prophète le rappelle. Il vit comme s'il n'avait pas besoin de la présence de Dieu dans sa vie. Et donc, il croit qu'il peut s'en sortir tout seul. C'est ça, le refus de la grâce de Dieu, le refus de son aide. Il pense pouvoir se débrouiller seul. Vous savez, on entend souvent cette expression, « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Bien, le verset 5 contredit ça. Notre propre justice est comme un vêtement souillé. La troisième partie de cette prière du prophète, du verset 7 au verset 11, je l'ai intitulée « Dieu peut briser le cycle infernal du péché et de sa condamnation ». Alors comment ? Mais d'abord par des prières sincères et des prières sincères de repentance, la confession de nos péchés. Sauf que le chemin de repentance demande moins de revendications, je le répète, moins de revendications et plus de capitulation. Il faut capituler devant le Seigneur. Au verset 7, on voit un basculement. « Cependant, Éternel, tu es notre Père, de nouveau. » Le prophète revient vers Dieu. Alors pour briser ce cycle infernal, il est nécessaire, comme le prophète, de reprendre les choses à la base, de poser les fondements et de aller vers notre Père. Et là, c'est comme si le prophète disait « Mais pourtant, Seigneur, tu es bien mon Père, tu es bien notre Père, et pourtant nous, nous sommes bien tes enfants. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Nous aurais-tu abandonné ?» Et dans la suite de sa prière, c'est comme si le prophète, tout en développant sa requête, entrait dans une autre vérité, celle de la reconnaissance de la fragilité et de la vulnérabilité de l'homme. Il dit « Nous sommes l'argile ». Et c'est à partir de cette première confession de foi, notre Père, qu'Ésaïe donc voit sous un nouveau visage la triste réalité de l'homme pécheur, rebelle face à la justice et la sainteté qui se dégage du nom de Dieu. « Cependant, Éternel, tu es notre Père ». Oui, l'Éternel est un Père saint. Face à ta justice, bien oui, nous sommes fragiles, vulnérables. Mais cette fragilité qui nous fait dérailler, qui nous éloigne un temps de ses voies, bien ne doit pas être une excuse en faisant valoir une sorte d'impuissance. On ne peut pas dire bien, « Que puis-je faire puisque Dieu l'a voulu ainsi ? Je n'y peux rien, je suis comme ça. Il faut me prendre tel que je suis. » Ça, c'est un argument excuse pour ne pas se soumettre au Père et reconnaître nos péchés. Ceci n'est pas recevable pour notre Père. Oui, moins de revendications, plus de capitulations, frères et sœurs. L'apôtre Paul soulève ce même argument fallacieux en Romains 9, verset 19. De dire, ben, je suis comme ça, ben, comment puis-je résister finalement si Dieu m'a fait comme ça ? Comment pourrais-je m'opposer à sa volonté ? Bien, dans ce texte-là, l'apôtre n'essaye même pas de contrecarrer cette idée-là. Pour lui, c'est l'évidence que c'est un faux argument, un mensonge, pour ne pas capituler devant Dieu. Il se contente de nous renvoyer au Père, le divin potier, justement. Je lis ce texte, Romains 9, verset 19. Tu me diras peut-être, alors pourquoi Dieu nous ferait-il encore des reproches ? Qui, en effet, résisterait à sa volonté ? Mais qui es-tu donc, toi, un être humain, pour contredire Dieu ? Le vase d'argile, demande-t-il à celui qui l'a façonné, pourquoi m'as-tu fait ainsi ? moins de revendications, plus de capitulations, frères et sœurs. Pourquoi devrais-je rendre des comptes à Dieu ? Je suis comme ça, je dois m'accepter tel que je suis, ne m'enfoncez pas plus, j'ai besoin d'augmenter mon niveau d'estime de moi. En réalité, cette démarche est tout sauf un chemin de vérité. C'est un mensonge, c'est une stratégie d'évitement pour ne pas capituler devant Dieu. Une échappatoire, un moyen détourné pour se tirer d'embarras. Une dérobade, une ruse pour ne pas capituler devant Dieu. Oui, moins de revendications, plus de capitulations. C'est un subterfuge, parce que le diable est un magicien, vous le savez. Il use et abuse des faux arguments pour que nous ne capitulions pas devant lui. Alors comment le prophète, l'a rappelé au verset 5, nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille et nos crimes nous emportent comme le vent. La propre justice est certainement le péché par défaut qui caractérise le mieux l'état d'un cœur non repentant. C'est le mensonge le plus dangereux. C'est le mensonge le plus désastreux de l'humanité. Savez-vous pourquoi certains mensonges ont plus de succès que la vérité ? Parce que ces mensonges nous donnent la meilleure part, en fait, en flattant notre ego, en nous disant « mais tu peux t'en sortir, tu es fort, tu n'as pas besoin de qui que ce soit ». C'est ce que la Bible appelle la chair, l'autosuffisance. Oui, moins de revendications, plus de capitulations. Voici une allégorie qui va certainement vous parler, intéressante, qui illustre parfaitement ce que je veux dire. Alors, une légende raconte qu'un jour, la vérité et le mensonge se sont croisés. « Bonjour », a dit le mensonge. « Bonjour », a dit la vérité. « Belle journée », a continué le mensonge. Alors, la vérité est allée voir si c'était vrai, si ça l'était, si c'était une belle journée. « Oui, belle journée », a alors répondu la vérité. « Le lac est encore plus beau », a dit le mensonge avec un joli sourire. Alors la vérité est allée voir, a regardé le lac et a vu, oui, que le mensonge disait la vérité et il a opiné de la tête. Le mensonge a couru vers l'eau et a lancé « L'eau est encore plus belle et tiède, allons nager !» Alors la vérité a touché l'eau avec ses doigts, elle était vraiment belle et tiède. Alors la vérité a fait confiance au mensonge. Les deux ont enlevé leurs vêtements et ont commencé à nager tranquillement. Un peu plus tard, le mensonge est sorti. Il s'est habillé avec les vêtements de la vérité et il est parti. La vérité, incapable de porter les habits du mensonge, a commencé à marcher sans vêtements et tout le monde s'est éloigné en la voyant nue. Attristée, abandonnée, la vérité se réfugia au fond d'un puits. C'est ainsi que depuis lors, les gens préfèrent accepter le mensonge de la propre justice et de l'estime de soi déguisée en vérité que la vérité nue de la nécessité de capituler devant Dieu. Moins de revendications, plus de capitulations. Moins de revendications, plus de capitulations. Autrement dit, cette allégorie nous dit quoi ? Nous préférons un mensonge bien habillé qui nous arrange plutôt qu'une vérité nue qui nous dérange. Un état de fait qui pourrait expliquer notre passivité, notre attentisme et finalement la facilité avec laquelle nous restons comme endormis face aux mensonges et aux dangers spirituels de l'orgueil, de la suffisance, de nos justifications permanentes pour excuser nos péchés. Moins de revendications, plus de capitulations. Alors, comment se sortir de cet état spirituel nauséabond ? Bien, la première étape, je viens de la décrire, c'est de reconnaître nos péchés, de nous repentir et de venir vers notre Père tel que nous sommes, dans la réalité de ce que nous sommes. La deuxième étape est celle qui est décrite au verset 11 et qui sera ma conclusion. Lisons ensemble ce verset 11. « Après cela, ô Éternel, te contiendras-tu ? Est-ce que tu te tairas et nous affligeras à l'excès ? » Eh bien, la réponse, nous l'avons dans l'Évangile. Non, Dieu ne se tait pas. La parole a été faite chair. La parole a été faite chair, elle est venue parmi nous, elle a habité parmi nous, elle nous a donné le chemin à suivre. Et cette parole, eh bien, a payé le prix pour que nous puissions nous-mêmes ne plus être dans la confusion, ni dans le mensonge, ni dans les ténèbres, frères et sœurs, mais dans la vérité et dans la lumière. Venons à lui d'un cœur repentant, reconnaissons que Jésus est celui qui est la parole incarnée, le Verbe fait chair, celui qui est mort pour nous. Crions à lui et reconnaissons que c'est lui qui a porté nos fautes, nos péchés. Non, Dieu ne s'est pas tu, il a parlé par sa parole faite chair, et il ne nous affligera pas à l'excès, frères et sœurs, si nous venons à lui d'un cœur repentant. Oui, comme le dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, autrefois Dieu nous a parlé, Dieu a parlé à nos ancêtres par les prophètes, hein, de bien des manières, mais maintenant, en ces temps qui sont les derniers, Dieu nous a parlé par le Fils. C'est par lui que Dieu a créé l'univers. C'est lui qui l'a établi héritier de toutes choses. Le Fils reflète la splendeur de la gloire divine. Il est l'expression même de ce que Dieu est. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Après avoir purifié les êtres humains de leurs péchés, il s'est assis dans les cieux à la droite de Dieu, la puissance suprême. Que le Seigneur soit glorifié. Amen.